Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Tu veux dire que par rapport à Strasbourg, la Drôme, c'est plus festif ?
Oui, c'est vrai. En tout cas, que l'Alsace, peut-être, que la Drôme, c'est carrément plus festif. Non, l'Alsace, culturellement, c'est beaucoup entre le rock, metal, bon, la musique très, très actuelle, mais normale. Mais effectivement, moi, je joue pas tant que ça en Alsace. Voilà, parce que les événements s'y prêtent moins, quoi.
Ah, mais le métal, c'est festif.
Oui, le métal, c'est méga festif. C'est vrai. Mais on n'a pas du tout autant d'open air qu'on peut avoir, par exemple, chez vous. Il y a des festivals, il y a deux, trois gros trucs, comme Pelpas, qui se joue en ce moment. Il y a Décibule. On a le Summer Vibration, quand même, pour tout ce qui est la scène reggae dub. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de petits événements, ou middle en tout cas, là-bas. Pas tant que ça.
19 mai 2023, salut Léo.
Salut Baptiste Sarrou.
Léo, Bandicoot in dub ou Bandicoot tout seul? Est-ce qu'il faut préciser toujours que tu es in dub ou est-ce que c'est pour te différencier du jeu vidéo?
Alors non, c'est pas pour me différencier du jeu vidéo, c'est pour me différencier d'un homonyme qui vient du sud et qui fait de la grosse techno avec un K. Et on a émergé à peu près au même moment et du coup on a pu se retrouver dans des situations un peu embarrassantes où moi par exemple on me proposait de jouer à une date et c'était pas pour moi, c'était pour lui. J'ai failli me retrouver à jouer à sa place et inversement lui ça lui arrivait aussi. Donc on a fini par s'écrire et à se dire ah bon bah on va peut-être séparer un peu les deux projets. Donc voilà, tout simplement.
C'est délire. Et du coup, vous n'êtes pas rencontrés, vous n'avez même pas réussi à jouer finalement sur la même scène.
Mais ça, je pense que ça va venir. Après, du coup, on s'est dit que les organisateurs, ils n'avaient peut-être pas envie de mettre deux bandicoots sur leur line-up. Donc peut-être qu'on ne s'est pas encore croisés à ce moment-là, quoi.
Comment tu te présenterais qu'est-ce que tu as envie de raconter de ce projet Bandicoot in Dub, pour ceux qui ne te connaissent pas?
C'est une base électro-dub. Quand même, mais autour il y a toutes mes influences qui gravitent, comme plein de gens, mais il y en a pléthore. Et déjà, rien que sur les affluents dub, par exemple, ça peut aller sur des morceaux un peu plus à l'ancienne, genre Hightone, le côté très organique, très instrumental, et d'autres beaucoup plus bass music, beaucoup plus récents. J'ai une appétence pour tout ce qui est drum and bass et jungle aussi, donc voilà, je mets tout ça un petit peu en avant. Et les influences, on va dire, musique et culture internationale, pour pas dire musique du monde, mais voilà, en gros, il y a beaucoup de choses comme ça dans ce style.
Et tu viens d'où dans la musique?
Bah, moi, j'ai commencé assez jeune au conservatoire, je faisais du clavecin, c'était pas très rock'n'roll. Et puis, j'ai fini par arrêter vers mes 11 ans parce que j'en avais un peu ralasse de, voilà, du parcours classique.
Donc, solfège, tout ça, tu maîtrises à fond?
Je maîtrise pas à fond, non, parce que ça date et que j'étais pas forcément le meilleur. Après, bien sûr, j'ai des bases quand même que j'ai gardées et qui m'apportent quelque chose, une compréhension de la musique, une lecture de la musique. Mais finalement, là où j'ai vraiment appris, c'est la deuxième école que j'ai faite quand j'étais un peu plus ado. Et là, c'était une école de musique actuelle et j'ai commencé à jouer avec des gens. Et sur des musiques que j'aimais plus particulièrement. Enfin, quand on a 14-15 ans, on a plutôt envie de faire du rock, du métal, justement. Donc j'ai eu des groupes de fusion toutes les années, Limp Bizkit et compagnie. Voilà. Et
donc, dans lequel tu jouais quoi?
Eh bien, moi, je jouais synthétiseur, machine. Et donc là, le côté électro, ça a commencé à émerger à ce moment-là. Voilà. Et par la suite, là, MAO est arrivé. J'ai commencé à faire mes premiers concerts dub. Je me suis pris une grosse branlée. J'ai fait OK, je vais partir là-dessus. Et puis voilà. Machine. Et les instruments sont venus petit à petit. Didgeridoo, Melodica et Theremin sur la fin.
Tes parents étaient musiciens? Enfin, comment on t'envoie comme ça au conservatoire finalement?
Non. Mais mon père est photographe de concert. Donc du coup, ils m'ont emmené dans pas mal de concerts et tout. Et je sais pas, ils ont dû se dire qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ça a pas été le foot. Franchement, j'étais nul au foot. Du coup, ils m'ont mis là-dedans. Ils m'ont pas forcé. Quand j'ai voulu arrêter le conservatoire, ils m'ont dit bah ok, ça marche. Et puis c'est revenu après naturellement. Mais ouais, ils m'ont poussé, ouais, complètement dans ce sens-là, ouais.
T'as parlé de tes premiers concerts dub, qu'est-ce qui te fout une claque? Enfin, j'ai entendu Hightone tout à l'heure, mais qu'est-ce qui finalement t'envoie là-dedans? C'est quoi tes premiers sons?
Je pense que la première branlée que je me suis pris, c'était le Pub de l'Herbe. Ouais, ça a commencé vraiment là-dedans. D'ailleurs, le mot dub, je savais pas que ça existait, donc voilà... Chinese Man, qui reste toujours un de mes groupes préférés, donc ça restait un peu périphérique quand même. Et puis il y a eu une fête de la musique à Besançon, je suis tombé sur Tetraide Roca et voilà, du coup là je me suis vraiment intéressé au style plus actuel, la French Touch on va dire quoi. Voilà.
Comment tu travailles?
Je me lève dans un bon mood, je me prends un gros café et du coup je m'inspire des influences de ce que j'écoute. Là, le prochain album par exemple que j'ai commencé à entamer, ça va beaucoup être sur tout ce qui influence Maghreb, musique Gnawa, et ben voilà, parce que c'est ce que j'écoute en ce moment. Je me balade entre Tina Riwen, Acid Arabe. Eh bien, je le retranscris, j'essaie de donner une ligne un peu directrice, donc je vais aller puiser un petit peu dans ce que j'écoute, les instruments traditionnels liés à cette culture-là, là en l'occurrence, ça peut être l'oud, par exemple, et puis je mets ma patte, et puis je lance le truc, et voilà, je vois comme ça vient. Voilà, je me mets pas trop de barrières, après j'essaie quand même de garder cette ligne directrice. C'est pas toujours évident, parce qu'il faut quand même rester un petit peu dans le thème tout en gardant les influences.
Mais c'est ça qui est assez particulier avec ton travail, c'est que tu vas nous amener dans chaque album vers un autre univers de la musique du monde. Et puis c'est le moment d'en parler. On est finalement au festival Les Lointaines à Buis-les-Baronnies, dont l'objectif est vraiment de mettre en avant, et c'est péjoratif des fois, ou mal défini d'autres fois, de parler de musique du monde.
Ouais, c'est vrai que des fois c'est difficile de parler de tout ce qui est un peu la musique du monde. Voilà, la sémantique, des fois c'est important. Et même faire attention à ce qu'on peut parler d'appropriation culturelle. Et en même temps, je pense que le dub et la musique plus largement, ben c'est fait aussi pour voyager et que on peut s'inspirer aussi de tout ça. Encore une fois, c'est par rapport à mes influences. Moi, j'écoute énormément de world music, d'afrobeat, de rock gnawa. Et donc voilà, ça vient principalement de là. Ouais.
Ouais, t'avais pas c'était pas un objectif artistique d'abord pour défendre un truc. Il y a pas un message.
Non, pas forcément. C'est ma manière à moi de voyager depuis mon studio et avec les gens sur scène. Et en fait, ça donne un côté organique et même de chansons. En fait, des fois, c'est construit sur des couplets, sur des refrains. Et moi, je trouve ça cool que plutôt une prod un peu autoroute dub classique, même si ça marche très bien et c'est des choses que j'écoute aussi. Mais c'est pas ce que j'ai envie de défendre et en studio et sur scène. Voilà, ça apporte des sonorités différentes.
Tu nous décris ton studio un peu?
C'est un chouette 15 mètres carrés que j'essaie de ranger au mieux pour avoir l'esprit clair. Ambiance plutôt tamisée, je vous avoue que les volets, je les ouvre pas des masses, mais parce que ça me plaît. Au début, je m'en voulais, je me dis, oh, tu fais vraiment l'ermite, mais je me sens bien dans mon cocon avec mes petites lumières et tout. Si c'est une question plutôt technique, j'utilise beaucoup un Moog, un Sub 37 notamment, pour faire tout ce qui est basse. Voilà, j'ai une Space Echo plutôt pour tout ce qui est delay, etc. J'utilise après beaucoup, je suis beaucoup in the box, donc je travaille beaucoup sur mes logiciels. Et les instruments se rajoutent vraiment après, pour le coup. C'est rare que je commence une zik avec le didgeridoo tout seul et je me dis tiens, je vais faire quelque chose dessus. Donc voilà.
Et sur le plan spirituel?
Sur le plan spirituel, ah, là mes amis. De, de bonne humeur avec un gros café bien serré. Je force pas. Si je vois que ça vient pas, bah on a 1000 trucs à faire entre l'administratif, le booking et compagnie. Par contre, quand je sens que ça vient, je ponce pas mal et je m'arrête un moment pour créer un peu une frustration. Pour que le lendemain, quand je réattaque, j'ai cette envie, ça a un peu gambergé la nuit, pardon, et voilà, je pousse à ce moment-là.
Ça, c'est intéressant. Alors, allons-y. Franchement, est-ce que tu vis de ta musique ?
Oui, je suis intermittent depuis 2 ans. Donc là, c'est ma deuxième tournée, donc j'étais intermittent au bout de ma première tournée. À la base, je suis éducateur spécialisé. Et du coup, j'adorais ce taf, mais je faisais beaucoup d'ateliers donc avec les personnes que j'accompagnais, et c'était des moments formidables. Je me suis dit, mais en fait, c'est les meilleurs moments, c'est à travers la musique.
Attends, pause. Tout ce qui est dit avant un mais, normalement, on le jette. Et là, tu es en train de nous parler d'ateliers. Donc, ton travail d'éducateur spécialisé, c'était quoi ? Tu faisais tu transférais le travail éducatif sur du matériel et du matériel lié à la MAO à ton boulot d'aujourd'hui ?
Tout à fait, et je le fais encore aujourd'hui.
Décris-nous un peu.
Oui, bien sûr. Disons qu'en fait, quand j'ai arrêté, j'ai mis en pause le boulot d'éduc. Moi j'étais éducateur avec des mineurs isolés étrangers ou mineurs non accompagnés, mais je trouve que ça veut pas dire grand chose. Et donc j'organisais des ateliers autour de la musique. Et quand j'ai mis ça de côté, il y a Monsieur Covid qui est arrivé, et donc il fallait quand même faire des heures. C'était vraiment pile à ce moment-là. Et donc pour joindre l'utile à l'agréable, j'ai continué avec des SMAC ces ateliers-là. Pendant ces ateliers, j'utilise des synthétiseurs, j'utilise mes contrôleurs en mode effet, j'utilise le Theremin, notamment pour les personnes où on travaille la psychomotricité, par exemple, avec des personnes en situation de handicap. On fait des tracks ensemble, on met ça sur CD, et peut y avoir même des représentations en fin d'année sur les plus gros projets. Voilà, en gros.
Tu t'en es servi pour tes sons ?
Ouais. Il y a des sons que j'ai repiqués, bien sûr, ouais, tout à fait, ouais. Parce qu'il y a eu des belles choses de créer, et ça fait partie de mon projet, au-delà de la scène, travailler avec des personnes, la musique, ouais, ça fait partie, vraiment, ouais.
Voilà, de nombreux artistes, en fait, peuvent se déplacer d'événement en événement, on le sait pas toujours, mais en fait, il y a souvent des propositions, notamment avec des écoles, avec des IME, voilà, et donc toi, c'est quelque chose que tu peux proposer en parallèle de ta tournée ?
Ouais, complètement, c'est quelque chose que je continue à proposer. C'est de plus en plus compliqué parce que, disons que les tournées, tout ça prend de plus en plus d'ampleur, mais j'aurais toujours envie de continuer, je pense ça, ouais, complètement. Et puis ça fait une jonction avec mon ancien travail que j'ai adoré aussi. C'est une ressource même, hein. C'est une ressource pour moi, parce que bon, ok, le week-end c'est les concerts, je vois plein de gens, etc. Mais la semaine, je suis quand même beaucoup dans le studio, un peu à faire l'ermite. Et justement, moi, ça me fait du bien aussi d'aller rencontrer des personnes. Et puis je fais autre chose, je fais pas que du dub. On fait des grosses instrus, ça va de la trap à l'électro, à la trance même.
Tu produis pour d'autres ?
Non, pas forcément.
Tu disais que tu faisais des grosses instrus, c'est pour qui ?
C'est avec les personnes, accompagnées. En fait, on démarre les ateliers. Moi, je vais chercher des samples avec eux. Je dis, alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et c'est dans ce sens-là. C'est leur laisser libre cours. Et puis, une fois qu'on part sur le morceau, après, moi, je réajuste, on enregistre, et voilà, quoi, ça part.
Ouais, pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Je pensais que tu parlais d'autre projet, mais donc, c'est ce que tu fais avec les jeunes. Parfait. Du coup, Léo, Bandicoot, est-ce que tu veux qu'on parle un petit peu de ce nouvel album que t'as sorti, quand même, avec 3 artistes maliens ? Parle-nous de cette rencontre. Et finalement, c'est pas ce qu'on a entendu là ce soir, mais du coup, comment tu le vends, cet album ? Est-ce qu'il est disponible aussi en live à vous quatre ? Voilà, parle-nous un peu de ça.
Bien sûr. Alors, donc, c'est le collectif AMA. C'est effectivement 3 musiciens, donc une chanteuse, quelqu'un qui fait de la kora, et l'autre qui est le dernier, qui est balafoniste et qui fait du djembé également. Alors, ils viennent juste en dessous le Mali. Ils sont du Burkina Faso, pour être exact. Mais non, mais ça reste une culture musicale et même ethnique aussi très très proche. Et du coup, quand j'ai commencé un petit peu à starter avec ce projet, je me suis rapproché du festival FIMU, qui est un festival gratuit dans la ville de Belfort. C'est un gros festival quand même, qui est accessible vraiment à tous, qui se passe dans les rues. Et ils avaient commencé un peu ce projet-là, c'est que tous les ans, ils choisissent un artiste qui collabore avec le pays qui est mis à l'honneur. Où il y a des partenariats. Donc là, il se trouve que c'est avec le Soko Festival, qui est situé à Ouagadougou. Et donc, ils m'ont dit, on pense que ton projet, ça peut carrément coller avec un autre groupe là-bas, et on te propose d'aller jouer. Donc j'ai dit, oui.
Donc en fait, tu connais pas ce groupe-là, on t'envoie au Burkina Faso.
C'est ça, ouais, complètement. Je vais là-bas, je les rencontre. Le lendemain, on était déjà en répète. On avait 3-4 jours pour adapter donc eux leur répertoire et moi mon set. Donc on a vraiment fusionné les deux. Et le week-end, on était déjà en festival à Ouaga en train de jouer. Et ça a plutôt bien marché. Il y avait des programmateurs et français et burkinabés. Et ils nous ont dit, ça marche super bien votre histoire. On m'a proposé de revenir 6 mois après pour la fête de la musique. Et là, j'ai passé un mois vraiment. On a fait une tournée. Et on a enregistré l'album dans les studios au Burkina Faso. Et moi, après, j'ai réarrangé le reste par la suite.
Du coup, ils sont pas encore venus en France ?
Si, ils sont venus en France. Alors, ça a capoté la première fois. C'était pas une histoire de Covid. C'est parce qu'ils ont pas eu le visa. Parce que, en gros, la mairie ou la préfecture, ils ont eu peur qu'ils restent tout le temps. Voilà. Donc ça a foiré, mais l'année d'après, on a pris toutes les précautions possibles et imaginables. Ils ont été soutenus par la mairie, etc. Et donc là, ils ont bien pu venir. Et on a fait quelques dates ensemble. On a fait trois dates ensemble. Voilà, donc c'est un projet en live qui fonctionne super bien. On a fait des résidences, tout est calé. Maintenant, est-ce qu'on arrivera à défendre l'album ensemble ? Ça, c'est une question qui est plus difficile.
Mais c'est un truc de dingue quand même, parce que là, du coup, tu nous expliques et on se rencontre une fois de plus que toi, tu peux aller faire toutes les tournées que tu veux au départ du Burkina Faso avec eux, dans toute l'Afrique probablement, mais qu'eux ne viendront pas jouer en Europe.
En tout cas, ils ont réussi à venir parce qu'il y a eu des passes 3 activées qui étaient bossées depuis 6 mois au moins. Tout à fait, ouais. On l'a senti effectivement cette différence, ouais, et c'est particulier.
Et alors, toi qui du coup t'influes de plein de musiques dites du monde et donc des pays africains en particulier, est-ce que tu as envie de dire quelque chose ? Est-ce que tu te positionnerais politiquement ? Est-ce que c'est le moment où est-ce que tu t'as pas envie de rentrer là-dedans ?
Non, moi je pense que mon projet il est apolitique. J'ai envie que mon projet reste apolitique. Moi, titre personnel, je ne suis pas politique. Par contre, donc c'est toujours une question qui est un petit peu compliquée.
Mais ça te scandalise quand même, non ?
Oui, ça, dans ce sens-là, bien sûr que nous, ça nous a fait vraiment bizarre. Et puis, on avait tout prévu pour qu'ils viennent et qu'on se fasse cette tournée en France. Eux, encore pire, parce qu'on a dû leur expliquer les raisons et ils comprenaient pas trop. Enfin, si, évidemment qu'ils comprenaient, mais ils captaient pas, quoi. Genre, pourquoi ? Moi, c'est des sujets, effectivement, quand tu vas dans un sens, c'est pas dans l'autre qui me touche quand même. Après, mais pour répondre franchement à ta question, non, c'est pas quelque chose que j'ai mis en avant, c'est pas quelque chose que j'ai politisé à travers mon projet. Mais j'en pense pas moins.
On est donc sur ce festival Les Lointaines. Tu nous as parlé aussi, au-delà du travail de studio, du temps que ça prenait de se booker, de se distribuer, d'aller se placer sur des dates. Donc tu fais tout seul ?
Oui, tout à fait, ouais, c'est de l'auto-booking pour l'instant de A à Z.
Auto-production, auto-booking, auto-tout, vas-y, comment ça marche ?
Sur l'auto-production, bien sûr, je fais mes propres morceaux. Après, par contre, sur le mixage et mastering, les deux derniers albums, c'était Canaille de Tetrahydroca pour le mixage et Elixir qui fait leur mastering aussi, qui m'a rejoint en mastering. Maintenant, sur le booking, voilà, c'est moi avec mon réseau. Après, on me propose de jouer aussi de plus en plus, donc c'est plutôt positif. Mais c'est un vrai travail de fourmi, on le sait. Et voilà, et donc j'ai une boîte de production, donc normalement pour la tournée prochaine qui me rejoint. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour en parler. Rien de signé, mais voilà, c'est dans un bon sens. Là, l'équipe s'agrandit. Il y a donc un ingé son qui m'a rejoint là-dessus. Et l'idéal en 2024, un ingé lumière aussi pour essayer de présenter un spectacle, vraiment de pousser le spectacle au possible. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'aime le côté scénique. Donc voilà, c'est la suite.
Allez, on parle vite fait des instruments. Bon, le térémine, tu vas nous en dire deux mots parce que nous, on sait ce que c'est, mais certains ne savent pas. Parle-nous aussi de ton didgeridoo à coulisses. Hein. Voilà, c'est ça. J'allais dire, je voulais trouver un truc encore plus drôle. C'est un didgeridoo lunettes de pirate, un peu.
Pour voir les étoiles, c'est ça. C'est pour voir les étoiles. Oui, non. Bah, le didgeridoo, c'est vrai qu'il est particulier.
Il est à coulisses ?
Eh bien, c'est pour avoir plusieurs notes différentes. Il fait quasiment toute une gamme entière. Et ça m'évite d'avoir 5 didgeridoo sur scène ou de faire mon set avec une seule et même note, ce qui serait un petit peu redondant. Voilà.
Tu le réduis en taille, hein, tu deviens de plus en plus aigu, plus grave.
Oui, c'est ça. Plus c'est réduit, plus c'est aigu, plus c'est gros, plus ça va dans les basses. Et voilà, donc c'est un français qui fait ça, qui s'appelle Jean-Yves Rédor. Il a sa marque déposée, ça s'appelle techniquement un wood slide. Voilà, donc il commence vraiment à emmener ça à l'international. Et quand je vais jouer dans des festivals, genre uniquement didgeridoo, on est beaucoup, beaucoup à avoir un peu le même. Mais ils sont tous uniques, c'est pas du tout un truc d'usinage. Et donc ça, c'est super chouette. Donc voilà, j'ai pas réussi à voir les étoiles avec. Toujours pas, non. J'essaye hein, depuis mon studio des fois, mais ça marche pas.
Et le térémine, alors qu'est-ce que tu nous en dis de cet instrument un peu particulier, très bizarre même?
Oui, bah le térémine, comme je dis souvent, c'est un peu ma dope sirène à moi, quoi. Je pourrais me contenter d'avoir quelques petites machines, un pouit-pouit, qui marche aussi très bien d'ailleurs, il y a des super pouit-pouit. Mais comme je le disais avant, le côté scénique m'intéresse énormément, donc c'est ultra visuel, c'est un instrument qui est à base d'ondes, donc dès qu'il y a un corps qui entre dans le champ, le térémine le prend en compte. Voilà, la main gauche pour les volumes, la main droite pour la hauteur de la note. Donc ça a été créé par Léon Térémine, qui était un russe, voilà, le premier instrument électronique, et voilà, c'est un instrument qui revient beaucoup.
Tu découvres ça comment ?
Eh bien, sur un festival à Belfort, un groupe un peu expérimental, un mec avec un masque à gaz qui joue de ce truc-là avec plein de fumée partout. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est génial. Et je rencontre cette personne par hasard un peu plus tard. Et quelques temps après, il le met en vente. Et là, je me suis dit, allez, c'est le premier que je vois sur scène. Ça me ferait plaisir de le récupérer. Donc voilà, c'est une belle histoire. Je l'essaye, ça sonne pas du tout. Je me dis zut, j'ai vraiment mis 500 balles en l'air. Et puis en fait, à force de persuasion, voilà, c'est un vrai instrument. Il faut s'entraîner, c'est comme le violon, il n'y a pas de fret. Et voilà, et on y vient doucement.
Et puis t'as une installation un peu particulière, deux contrôleurs légèrement en pente, un pour la main droite, un pour la main gauche, ça aussi c'est pas quelque chose que j'avais vu très souvent.
Ouais c'est vrai, encore une fois c'est pour le côté live, le côté incliné, pour que les gens voient ce qui se passe un maximum en tout cas, et puis le double contrôleur, ça me permet d'avoir plus de possibilités, j'ai un 16 pistes, donc j'ai vraiment le contrôle de plein d'éléments. Voilà, tout simplement. La question d'avoir une vraie table de mixage sur scène a été pensée, mais vu que j'essaye de tourner en train, la grosse table analogique, bon, le côté route, on verra ça pour plus tard.
Ah, effectivement, tu l'as dit au début, tu viens de Strasbourg, on est là dans la Drôme, à Buis-les-Baronnies, festival Les Lointaines. Comment tu débarques ici ?
Eh bien, je crois que c'est Les Lointaines, justement, qui m'ont contacté, qui venaient de tomber sur l'album que j'ai fait donc avec le groupe, le collectif Ama Burkinabé, qui nous dit « tu rentres carrément dans notre esthétique ». Et puis après, voilà, moi j'essaie d'être en train un maximum parce qu'on se sent plus à l'aise, parce que j'aime pas spécialement conduire et que pour l'empreinte carbone c'est pas si mal non plus. Donc je me suis levé ce matin à 8h, j'ai eu mon train à 9h avec un petit retard aussi de la SNCF.
Normal.
Ça fait partie du jeu évidemment, mais bon, j'aurais pu être dans les bouchons avec ma voiture, donc finalement ça marche aussi. Et puis on vient super gentiment me chercher à 1h d'ici, à la gare d'Avignon. Donc là je suis arrivé en retard, on m'a déposé, j'ai posé mes affaires, j'ai fait les balances directement. Le concert s'est déroulé 10 minutes après, donc tout allait très vite. Et voilà, mais j'aime bien ce côté speed aussi, un petit peu quelque part. Tout rentre dans l'ordre.
Bah écoute... En tout cas, c'était vraiment sympa de te voir ici. C'est pas particulièrement cet album, d'ailleurs, que tu nous as joué, hein, parce que...
Je peux en parler un petit peu. Effectivement, disons que si j'aurais représenté tout l'album sans les...
Si j'avais.
T'en rappelais, toi qui es musicien, mais si n'aime pas les rêves.
C'est vrai.
Donc si j'aurais, c'est pas possible.
Merci pour la correction.
Je suis bloqué.
Mais il y a des trucs comme ça, c'est comme au jour d'aujourd'hui, on a tous des trucs, ça nous fait saigner les oreilles, je comprends. Mais sans eux, 9 morceaux que je fais sur scène, sans eux, ça me ferait bizarre, ça ferait bizarre au public. Mettre des vocaux, je trouve ça normal, surtout dans le dub et tout, ça se fait. Mais si c'est tout le temps la même, ça m'aurait fait bizarre. J'aurais eu l'impression d'avoir un groupe fantôme avec moi, c'est pas ce que j'ai envie de défendre. Et puis c'est un album un petit peu plus chill, et du coup je l'ai pas forcément ultra mis en avant. Mais il y en a quand même 3, dont une que j'ai... oui, avec Cas Boven, que j'ai rencontré par hasard, qui mesure 2 mètres. Et il m'a dit bonjour. Bah, il m'a dit bonjour. Il passait vers le studio. C'était un ami à celui qui nous hébergeait. Je me suis dit,
Au Burkina Faso. Hein.
Ouais, au Burkina Faso. Je me suis dit, lui, c'est obligé. Il fait de la musique avec une voix avec 3 octaves en dessous, c'est sûr. Je lui ai posé la question. Il m'a dit oui. Et puis, le soir même, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, est-ce que tu veux faire une track? Il m'a dit oui, bien sûr. Et du coup, 2 heures après, il a débarqué au studio. Il devait être 1h du matin, un truc comme ça. On a enregistré ça dans la foulée jusqu'à 4h du matin. Il est revenu le lendemain, c'était pas prévu. Il m'a dit, ouais, il y a des trucs, je pense que c'est pas terrible. On se refait une session. Je lui ai dit, bon, bah ok, j'ai pas l'air d'avoir le choix. Mais bref. Ouais, vraiment, il était intimidant quand même, mais d'une gentillesse absolue quand même. Mais quand même, quoi. Il est le mec imposé quand même. Et puis voilà, il fait du rap. Lui, à la base, le dub, il connaît pas spécialement. Et voilà, il a posé en toute simplicité. Voilà.
Faisons un truc de geek, de vrais gens qui sont dans le dub. Moi, j'ai l'impression que tu as découvert le nouveau Nazamba. Est-ce que ça te va?
Ah, c'est un bel éloge pour Cas Boven et aussi pour Nazamba. Il a ce côté dub poetry, effectivement, surtout dans l'intro, il parle. C'est une histoire, vraiment, ce dont il parle. La chanson-là, donc Pelikou, elle parle, en fait, elle parle des immigrés qui, peu importe hein, d'ailleurs de quel endroit, qui partent dans leur pays, qui réussissent ou non, et qui n'ont pas forcément envie de revenir dans leur pays. Ça peut être par honte, ça peut être par gêne, ça peut être... voilà, on a peur, enfin c'est ce qu'il m'a expliqué en tout cas. Et de la musique, elle dit, ben, gars, tu viens de là, tu peux revenir à tout moment, en fait, t'es chez toi, n'aie pas honte, n'aie pas peur de revenir, quoi. Donc il y a un storytelling énorme sur cette musique, et c'est ce qu'il a mis. Et je pense que Nazamba, je connais pas ses paroles par cœur, mais je pense qu'il y a ce côté racontage d'histoire, quoi, ouais, c'est ça. Après, ouais, sur la gravité de la voix, on pense à lui, forcément, ouais. C'est vrai.
Voilà, ben merci pour cette découverte aussi. Bandicoot, donc ta prochaine actualité, c'est un album au son du Maghreb, enfin des Berbères.
Ouais, c'est ça, on peut dire ça, ouais, tout à fait, ouais.
Ta tournée en cours, donc ce que tu nous jouais là, t'as pas fini de nous le dire, mais du coup, qu'est-ce que tu nous joues là et qu'est-ce que les gens peuvent entendre sur les prochaines dates?
Sur les prochaines dates, on est encore sur un set hein, qui tourne à peu près depuis un an. Donc c'est un mélange du premier album, quelques exclus que j'ai jamais sortis, qui sont réservés au concert, de effectivement deux tracks du dernier album et une troisième mais que j'ai remixé à ma sauce. Voilà, donc sur la prochaine tournée, ça va être ça. Et j'ai une config plus Sound System aussi, où j'ai encore d'autres exclus qui sont un peu plus bêtes et méchants et qui envoient un peu plus aussi, quoi.
T'as envie de nous balancer quelques grosses dates? Je sais que tu es au No Logo, par exemple.
Oui, effectivement, No Logo, ça fait partie des dates importantes de cet été. Il y a le Summer Vibration aussi. Il y a le Bougnat Festival en Auvergne. Ça, c'est un petit peu pour les plus grosses. Il y a Rencontre et Racine. Quand même, oui, c'est une programmation. Moi, c'est un festival vraiment de cœur. Ça a été dans mes premiers festivals, donc je suis très content d'aller jouer là-bas. Et voilà. Mais sinon, il y a il reste une bonne trentaine de dates jusqu'à septembre-octobre. Donc c'est cool. N'hésitez pas à venir. Peuple des RDWA.
Et ta musique est en téléchargement gratuit.
Tout est gratuit, tout le temps. Ouais, tout à fait, tout est tout le temps gratuit. C'est aussi la politique que je trouve chouette de ODG Prod. Mais franchement, même si j'étais pas sur un label qui le demande, je pense que c'est quelque chose que je proposerais toujours parce que c'est important.
Parle-nous d'ODG Prod, c'est facile d'y rentrer ?
Ah, faut allonger un gros billet.
C'est gratuit et faut les payer, quoi.
C'est ça. Je pense qu'ils ont une ligne artistique qui est quand même qui est leur ligne artistique, hein, ce qu'ils appellent la future dub. Donc, est-ce que c'est facile? Je sais pas. C'est difficile à dire.
Ils sont allés te chercher ou tu es rentré? C'est toi qui as proposé?
Non, c'est moi qui ai venu leur proposer justement ces canailles de Tetrahydroca qui étaient sur le mixage de l'album. On en parlait un petit peu. Il m'a dit ah mais bah je pense que ça rentre dans cette esthétique en tout cas recherchée. Donc ils ont tout de suite accepté. Ils proposent vraiment un style de dub entre guillemets à eux. Mais plein d'autres labels, notamment français, mais pas que, mais je pense aux autres français, aux Marées Basses notamment, qui proposent aussi autre chose. Et on a de la chance en France d'avoir cette différence, cette variété-là. Donc c'est chouette.
Et c'est vraiment cool d'être aussi gratuit ou à prix libre dans certains cas. On termine avec tes éléments de com, Bandicoot in Dub. Où est-ce qu'on te trouve, où est-ce qu'on te suit? Tu peux tout nous citer et on terminera comme ça, Léo.
Oui, bien sûr. Nous avons un Facebook, Bandicoot in Dub, Instagram, bandicoot.live. Il y a les SoundCloud et sinon toute la musique est sur toutes les plateformes, évidemment. TikTok, on n'y est pas encore. J'attends encore un petit peu.
Tu veux une parole libre?
Une parole libre? Eh bien, déjà merci. Merci pour ce moment d'échange. C'est toujours un bon exercice aussi de parler de son projet. Et en plus, quand on en parle, ça nous fait des fois réfléchir à des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc c'est cool.
Quoi, par exemple?
Eh bien, comment je travaille? En fait, je me suis jamais posé la question. Moi, juste, je me lève le matin, je vais bosser. Et j'adore ça. Ou alors, ça ressoulève d'autres sujets comme est-ce qu'on politise ou pas? Son projet, qui est une grande question et libre à chacun. Donc voilà, merci pour ça, pour ce moment. Et puis aussi RDWA. Voilà, moi c'est une radio à titre perso que je suis depuis un moment, donc ça fait du bien aussi de s'échanger.
Bon, dis donc, et pourquoi?
Bah parce que ça fait plaisir et que j'ai découvert quand même de jolies pépites là-dessus. Donc voilà. Et merci à ceux qui écoutent ça.
Avec quel morceau de toi on laisse nos auditrices et nos auditeurs? Et pourquoi?
Ah, ça dépend dans quel mode. Mais sur un bon mode, un truc pour bien se motiver, je propose Toron, qui fait une suite logique avec le prochain album, justement, qui est un mélange entre la drum and bass et le rock gnawa. Voilà, c'est un truc bien motivant. L'été arrive, donc n'hésitez pas à passer sur celle-ci. Toll.
Merci Léo.
Merci à vous.